Il est 11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez et aujourd'hui nous allons parler de recherche biomédicale avec deux invités, Laurent Auriot-Laurore, bonjour.
Bonjour.
Et Grégoire Boulouis, bonjour. Cette émission s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM. Et peut-être voulez-vous d'abord expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste, Laurent Auriot, le métier de manipulateur radio, comment on devient manip radio, et vous, peut-être ensuite, Grégoire Boulouis, comment on devient neuroradiologue.
Après mon bac, j'ai intégré l'école de manip radio de Tours. C'est un format de 3 ans, c'est un diplôme d'État, c'est l'équivalent en fait en termes de grille d'infirmière. Par contre, on va être beaucoup plus orienté sur la production des images, les rayons X. Donc, il y a un côté techno qui est très fort. Et il y a un côté aussi qui est très bien avec le patient, c'est qu'on est sur des prises en charge ponctuelles. Le patient, il vient, il est là pour son examen, on va réaliser son examen avec lui, et puis après, on va gérer les résultats et l'image avec les radiologues. Donc, c'est vraiment le paramédical qui va être le paramédical dédié aux radiologues. Et en ça, c'est vraiment sympa parce qu'on a une formation qui est spécifique et on a des médecins qui sont spécifiques en face de nous. Alors, c'est radiologue, mais ça peut aussi être médecin nucléaire, radiothérapeute. Ça, c'est nos champs de compétences. Globalement, dès qu'il y a une machine qui fait des images ou qui émet des rayons X, le paramédical qui va gérer ça, c'est le manip radio. Et moi, du coup, j'ai fait mes 3 ans d'études donc à l'IFMEM de Tours. Après, je suis parti faire une petite escapade un petit peu loin et je suis revenu il y a une dizaine d'années maintenant sur le service de neuroradiologie de Tours. Et donc, j'ai intégré l'équipe du bloc de neuroradio interventionnel du CHU.
Alors, et vous, Grégoire Boulouis, comment on devient neuroradiologue?
On commence par les études médicales, donc la première année de médecine, et ensuite on passe les étapes jusqu'à l'internat. Et l'internat, c'est cette étape qui valide les 6 premières années et qui permet de devenir, à proprement parler, médecin. C'est-à-dire qu'on peut prescrire, on est responsabilisé au sein de l'hôpital quand on devient interne. Avant, on est vraiment étudiant en formation, au début étudiant en médecine, puis externe en médecine. Et c'est quand on passe l'internat qu'on choisit sa spécialité. Alors, il y en a certainement quelques-uns, mais parmi les neuroradiologues, je pense qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui avaient comme idée, quand ils ont commencé médecine, de devenir neuroradiologue. Alors, déjà, la radiologie est assez méconnue. Quand on commence médecine, on peut avoir cette image de quelqu'un qui regarde des radios accrochées à un négatoscope, ces espèces de lampes murales, et regarder des poumons ou des os cassés sur des radios, mais finalement, c'est le métier de radiologue, c'est pas du tout ça, ou en tout cas, c'est plus du tout ça. Et moi, en tout cas, j'ai commencé avec l'idée que j'aimais bien j'aimais bien, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'étais vraiment fasciné par les troubles neurologiques. Et notamment, j'avais lu au tout début de mes études de médecine des livres comme L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est un super livre. Ou le fantôme intérieur, c'est vraiment des livres qui décrivent des troubles neurologiques très particuliers. Et je trouvais ça fascinant. Et d'ailleurs, j'ai commencé, moi, mon internat. Donc, j'ai choisi comme spécialité la neurologie. Et c'est en neurologie que j'ai découvert l'imagerie du cerveau et de la moelle épinière. Donc, finalement, la neuroradiologie. Et c'est en commençant, en bifurquant vers la radiologie, où j'ai découvert la valence interventionnelle, c'est-à-dire... Ça, c'est vraiment la partie, je pense, la plus méconnue du public et la plus méconnue de... Même quand on est étudiant en médecine, même interne, hein, même on a des collègues parfois qui ont du mal à se représenter exactement ce qu'on fait en neuroradiologie interventionnelle. Finalement, on utilise les outils de la radiologie, donc les rayons X, le scanner, l'IRM, pour faire des interventions. C'est un peu comme de la radiologie en temps réel qui nous permet de guider du matériel à l'intérieur du corps humain. Et nous, pour nous, les neuroradiologues interventionnels, à l'intérieur des vaisseaux du cerveau et de la moelle, pour aller réparer des vaisseaux abîmés ou délivrer du matériel ou même des traitements médicamenteux à l'intérieur des vaisseaux. Voilà. Donc finalement, pour devenir neuroradiologue, je pense qu'en fait, on découvre la spécialité au fur et à mesure de ses études. C'est sûr qu'il faut avoir peut-être un attrait pour cet aspect de la médecine, hein, les troubles neurologiques. C'est pas facile parce que c'est des maladies assez sérieuses. Il y a beaucoup d'urgences. On est confronté à des situations de vie difficiles, parfois chez des patients jeunes. Mais en revanche, on a vraiment l'impression d'aider beaucoup, de rendre un service important au quotidien aux patients. Et ça, c'est vrai que c'est, disons que c'est super quand on a choisi d'être médecin.
Et je pense que, pour compléter ce que dit Grégoire, je suis parfaitement d'accord. Je pense vraiment que la neuroradio interventionnelle, on y arrive par hasard, mais par contre, on y reste vraiment par passion. Parce que on est des petites équipes. Moi, j'aime vraiment ça chez nous, le côté artisan. Chez nous, l'aide-soignant, il peut discuter avec le neuroradio interventionnel. Je suis pas sûr que dans tous les blocs opératoires, ça soit le cas. Et on impacte vraiment les gens. Les gens, quand ils rentrent chez nous, certains vont très mal. Mais globalement, notre métier à nous, c'est quoi? On a un patient qui arrive parce qu'il a une artère dans le cerveau qui est soit en train de se dilater et qui est prêt à rompre. Et si ça rompt, bah, on imagine tous bien que la fin, elle n'est pas chouette. Ou à l'inverse, qu'il y a une artère qui s'est bouchée. Et ben en fait, mon job à moi, en tant que manip radio, ça va être de prendre en charge le patient, de l'installer, de préparer tout le matériel. Alors, après, on pourra parler du matos aussi. Et le travail du neuroradio interventionnel, ça va être de monter des petits tuyaux à partir soit d'une artère du bras ou d'une artère fémorale jusqu'à dans le cerveau. Bon, déjà, on est sur un premier challenge. Ensuite, d'arriver avec donc un autre petit tuyau qui est dans ce gros tuyau pour soit déposer du matériel, donc c'est ce que disait tout à l'heure Grégoire, donc soit des fils pour boucher l'anévrisme, ou des stents pour réparer l'artère, ou alors une mini pompe d'aspiration pour aller retirer le caillot qui est en train de faire que une partie du territoire cérébral de notre patient est en train de nécroser. Quand on parle de ça, c'est des gens qui arrivent, c'est ce qu'on appelle l'AVC, et tout le monde a entendu parler quelque part de l'AVC. Alors avant, les grands-parents appelaient ça la congestion cérébrale. On savait pas trop, et puis du coup maintenant, on appelait ça l'attaque cérébrale, maintenant on est plus sur l'AVC. Et du coup, ben, on a des gens qui arrivent effectivement, qui sont en train de perdre une partie de leur cerveau. Et notre travail à nous, c'est de faire en sorte de rétablir la circulation. Donc ouais, je pense vraiment qu'on y arrive par hasard parce que vous verrez pas des grands trucs à propos de ça. On n'a pas la puissance médiatique de plein des neurochirurgiens, par exemple, qui sont le pendant, qui proposent aussi des traitements. Mais de plus en plus, on s'oriente vers le fait d'être le moins invasif possible. Et c'est juste, en fait, les gens, ben, on leur a traité les artères du cerveau. Et ils ressortent, ils ont un petit pansement qui est sans doute plus petit que celui que vous prenez quand vous vous êtes coupé en cuisinant. Et ils se disent, bah, ouais, j'ai juste ça. Bah ouais, vous avez juste ça. Et dans 3 jours, vous marchez.
Oui, on dit souvent c'est de la chirurgie à crâne fermé.
Ouais.
C'est-à-dire que effectivement, le point d'entrée est tout petit. Hein, on se dégage juste une toute petite entrée dans l'artère, le tuyau par lequel on passe pour arriver vers le cerveau. Et par ce tout petit trou, on peut monter du matériel et faire ces interventions, comme disait Laurent. C'est vrai que c'est pour les patients, c'est exceptionnel parce que vraiment, c'est mini-invasif. On fait des interventions qui sont complexes, qui rendent un grand service et pour lesquels, comme disait Laurent à l'instant, hein, 3 jours plus tard, les patients sont. Enfin, d'ailleurs, le lendemain, ils sont sur leurs deux pieds, 3 jours plus tard, ils sont chez eux et ils peuvent reprendre une vie normale. Donc, ça a vraiment cette approche mini-invasive que permet la radiologie interventionnelle, donc nous en neuroradiologie interventionnelle, c'est vraiment une révolution des 10-15 dernières années. Alors, la spécialité existe depuis 25-30 ans. Initialement, c'était un peu balbutiant et c'était quelque chose qui était moins répandu. Ça se développe énormément et ça a pris vraiment un tournant assez radical en 2015, depuis que la problématique de l'AVC, donc quand une artère se bouche, un tuyau qui alimente le cerveau vient à se boucher. Avant et d'ailleurs toujours, on utilisait des médicaments pour essayer de désagréger le caillot. Donc on donnait un médicament par les veines qui se répartissait dans le corps humain et qui venait attaquer le caillot qui était à l'intérieur du cerveau. Mais pour beaucoup de ces patients qui font un AVC, ce traitement médicamenteux ne marche pas ou pas bien. Et donc a été développé, enfin ont été développées plutôt des techniques qui permettent d'aller, plutôt que d'injecter un médicament pour désagréger le caillot, en fait, on va directement à la source du problème en passant par l'intérieur des vaisseaux et on va retirer le caillot, comme on dit, mécaniquement, c'est-à-dire qu'on peut soit l'aspirer avec un petit tuyau comme un tuyau d'aspirateur, soit le retirer avec des techniques, on utilise des petites cages qui viennent capturer le caillot et ensuite on le retire. Et c'est vrai que c'est une activité qui est très lourde parce que maintenant que c'est depuis 2015, hein, comme on dit, c'est Ça a fait beaucoup augmenter l'activité. C'est à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est bien entendu un geste qu'il faut faire en extrême urgence, puisque tout le temps perdu avant qu'on retire le caillot, c'est autant de neurones qui ont disparu. Et donc, c'est pour nous, c'est une activité qui reste très valorisante, puisqu'on se retrouve dans des situations où les patients arrivent, on dit hémiplégiques, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger la moitié du corps, qui ont du mal à parler. Éventuellement même qui ont des troubles de conscience, qui sont vraiment gravement malades. Et en plus, ça a été soudain, c'est-à-dire que c'était 2 heures avant que ça a commencé. Sur la table, sur la table du bloc opératoire, on retire le caillot et quasiment immédiatement, chez certains patients, ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Ils se remettent à bouger la moitié du corps. Et cette sensation en équipe, hein, on n'est jamais seul c'est vraiment des chaînes de soins. On se retrouve vraiment à avoir la sensation, alors en médecine c'est rare hein, malgré tout, d'avoir sauvé la vie de quelqu'un. C'est vrai qu'en médecine, cette sensation vraiment où on le voit, on le perçoit, il y a quasiment pour certains patients pas de phase de récupération, c'est immédiat. Et c'est vraiment une spécialité, enfin une partie de la radiologie et de la radiologie interventionnelle qui est méconnue. Mais qui est en train de se développer énormément. Et pour ça, d'ailleurs, merci à Radio Campus
De nous accueillir.
de nous accueillir pour en parler aujourd'hui.
Et du coup, je vais rebondir sur ce que disait Grégoire sur deux points. C'est le côté mini-invasif. Quand on dit mini-invasif, c'est que l'accès artériel, donc globalement, on va pas se mentir, le trou qu'on va faire dans l'artère fémorale mesure maximum 3 mm. Et donc, du coup, vous nous avez posé tout à l'heure la question de bah, comment on travaille en équipe? Déjà, on n'est pas qu'une équipe de neuroradio. C'est-à-dire que nous, on s'insère dans un parcours de soins du patient. On pourrait parler de l'AVC ischémique. Une petite dame ou un petit monsieur fait a son petit en, une petite embole qui va venir boucher une artère. Elle va arriver en urgence, alors dans un hôpital périphérique, on pourrait prendre Issoudun ou n'importe lequel. Là-bas, ça veut dire qu'ils ont formé les urgentistes à déceler et à dire faut très rapidement nous les envoyer. Ensuite, ils arrivent dans les unités de neurovasculaire, donc c'est des unités de neurologie dédiées aux pathologies vasculaires, des gens avec qui on travaille normalement, qui sont vraiment des gens de qualité, qui disent ok, ils passent d'abord à l'imagerie, donc à l'IRM ou au scanner, en disant oui, effectivement, il y a bien une artère qui est bouchée. On le pousse au bloc, et là, on a les anesthésistes aussi qui sont là, qui vont s'occuper du patient. Alors, les anesthésistes, on les oublie toujours, alors qu'ils ont un rôle qui est vraiment prépondérant. À la fois pour le confort du patient, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, le confort du patient, et également pour sa sécurité. Et pour notre confort à nous, c'est-à-dire que si jamais le patient est bien calme, bien détendu, on va plus vite, on travaille mieux. Alors après, on peut parler vraiment de l'équipe de neuroradio interventionnelle. Elle travaille sur deux pieds qui sont l'équipe paramédicale et l'équipe médicale. L'équipe paramédicale, c'est le mécanicien de l'avion de chasse. C'est-à-dire que nous, on va s'occuper de tout ce qui est non critique. Installation du patient, gestion de la salle, gestion des images, commande du matériel. Alors ça, c'est pour un petit peu avant ou un petit peu après. Préparer le matériel. Alors quand on parle de matériel, faut comprendre que les unités de mesure de notre matériel, c'est 1 000 000 d'euros à chaque fois. C'est des matériels, comme on a dit, qui sont extrêmement fragiles, extrêmement spécifiques. Donc ça veut dire gérer tout ça. Et donc ça veut dire préparer le patient, ça veut dire lui parler. Nous, dans l'équipe, on a des gens qui sont formés à l'hypnose pour le confort du patient, toujours. Et aussi pour le confort des équipes. Et à côté de ça, donc la partie, on va dire, plus critique, mais la Grégoire, je vais plutôt te laisser prendre la suite, mais ça va vraiment être tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, la navigation.
Une fois qu'on est en place, comme disait Laurent, hein, le patient est installé, et effectivement, on navigue à l'intérieur des vaisseaux à l'aide de ces tuyaux et aussi de petits fils plus ou moins rigides et qui ont des formes différentes qui nous permettent d'aller à droite, à gauche, et un peu exactement comme dans un logiciel GPS, hein, on va à gauche, à droite, et on rejoint l'endroit où il y a une artère malade ou une artère bouchée. Et une fois qu'on est sur place, donc on est devant le problème, là on peut déployer des différents types de matériel en utilisant ces tuyaux comme des canaux opérateurs en fait. C'est comme un canal dans lequel on fait passer le matériel. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a un, la navigation, il faut pas le trouver hein, parce qu'on sait où c'est, mais y arriver. Et une fois qu'on y est arrivé, il y a l'intervention à proprement parler. Ensuite, il y a les contrôles pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas eu de problème.
Alors peut-être qu'on peut préciser aussi, parce qu'on parle de matériel, mais alors pour que les auditeurs se figurent à quoi ressemble votre bloc. Alors comment le patient est installé? Parce qu'on imagine bien donc il y a des écrans, sûrement que des choses assez volumineuses, alors que vous utilisez des matériaux tout petits. Donc comment ça se présente ce bloc?
Donc le patient il arrive et on va l'installer sur une table de radiologie. Alors on n'est pas sur la table de radio un petit peu, vous avez l'habitude avec le gros tube qui est sur le côté. Là la table elle est très fine et elle est très très fine en largeur et aussi en épaisseur. Il y a un tout petit matelas. Alors on n'est pas non plus sur un sommier à mémoire de forme de qualité d'un hôtel. Hein. Je pense que les gens, quand ils sortent, ils ont un peu mal au dos, et je les comprends. Mais nous, en fait, moins il y a de matériel, moins il y a d'atténuation de rayon X, donc plus les images sont belles. Le patient, donc souvent, on lui positionnait la tête dans une petite tétière, c'est une petite goulotte pour qu'il reste bien immobile. Ensuite, on va le champer. Donc, bah voilà, on va lui mettre un drap sur lui. C'est un drap dit opératoire, c'est-à-dire qu'en fait, il est stérile, donc pour que nos opérateurs soient bien en casaque, en stérile. Et alors, il est sur le dos. À sa tête, on va approcher deux espèces de grandes plaques qui sont tenues par un grand arceau semi-circulaire. Alors, il y en a un en face de lui, donc au niveau du nez, et donc la plaque contralatérale qui va être à l'arrière de la tête. Et il y en aura aussi deux plaques qui vont être mises, donc l'écran et le tube, sur le côté, donc à 90 degrés. 90 degrés, ça veut dire qu'en fait, nous, on a deux tubes à rayon X qui nous font des images, donc dites de projection. De face et de profil. Parce que votre cerveau, il est en 3D. Et que du coup, bah, si vous avez qu'une image de face pour vous repérer, c'est pas facile. Prenons par exemple l'image d'un jeu vidéo, d'un petit bonhomme. Quand avant, les jeux étaient en 2D, on n'avait aucune notion de la profondeur. Donc avec, voilà, après, on a commencé à avoir des images un peu en 3D. Bah, nous, c'est la même chose. En ayant cette face et ce profil, on peut savoir, parfois les choses se superposent sur une face. Eh bien, avec le profil, on va pouvoir les dédoubler. Et donc, en fait, on va faire des radios en temps réel des artères. Et pour ça, on va injecter un petit produit de contraste. Ce petit produit de contraste, il va arrêter le rayon X, et en arrêtant le rayon X, il va nous mouler l'intérieur de l'artère. L'opérateur, lui, il va voir son tuyau qui est radio opaque, donc progresser dans la fameuse cartographie routière, donc le roadmap dont a parlé tout à l'heure Grégoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a enregistré l'image des tracés des vaisseaux. Et dans cette image-là, on va faire progresser nos tuyaux. On est en train de parler quand même d'artères qui, pour les plus grosses, mesurent 4 mm. Alors vous imaginez bien que la qualité radio est importante. Ça veut dire aussi que ce qu'on appelle la chaîne de visualisation, mais nos écrans sont. Alors on a une dalle, ça va faire rêver tous les gamers. On a une dalle qui valait très cher et qui mesure quasiment 2 mètres par 1 mètre avec un niveau de définition extraordinaire. Et donc voilà, on était, il y a la salle elle a quelques années maintenant, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, on était sur du 4K. C'est quand même une discipline qui nécessite une expertise en termes techniques et qui nécessite aussi des moyens technologiques vraiment spécifiques et vraiment dédiés. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas très connu. Alors globalement, on va pas se mentir, des centres de neuroradio interventionnel, il y en a un dans chaque CHU. C'est la répartition.
C'est surtout vrai quand les gestes sont très urgents. On en parlait tout à l'heure des AVC et d'aller déboucher l'artère. Là, on est bien sûr tous ensemble en train de préparer la salle, d'installer le malade. On va au plus vite. On est souvent assez nombreux d'ailleurs en salle. Ça met un petit quart d'heure pour tout préparer à 5-6 personnes. Donc ça prend quand même du temps. Et si on laissait l'équipe de manipulateurs tout seul, bah c'est une perte de chance pour les patients. Et voilà, donc on n'entre pas vraiment en scène, mais finalement, ensuite, on prépare ensemble le matériel. On décide de quel matériel on va utiliser avant de commencer l'intervention. On a comme un peu un plan d'attaque, quel type de matériel on va utiliser. Ça détermine un petit peu la taille du trou, notamment qu'on fait dans l'artère. On peut être amené à faire des trous plus petits si on n'a pas besoin de matériel compliqué ou des trous plus gros si on va utiliser du matériel complexe. Et donc, avec l'équipe de manipulateurs, on parle de la stratégie pour que tout le matériel puisse être prêt. Alors, il y a aussi un autre aspect, et ça c'est un peu plus notre rôle, mais Et ça fait partie de notre formation. Nous, on se prépare aussi, bien sûr, au pire. Hein. C'est des gestes. On navigue, on est à l'intérieur des vaisseaux du cerveau. Et donc, on est un peu toujours prêt à. Parce que nous, la complication la plus grave, c'est une perforation. Les vaisseaux, ils ont une paroi qui est un peu résistante, mais qui n'est pas. C'est pas du Kevlar, quoi. C'est du tissu. Hein. C'est moins résistant que la peau, on va dire. C'est très fin. C'est papier de cigarette. Donc, nous, on est un peu toujours prêt. Donc, à ce type de complications, on anticipe et s'il y a une perforation, ce qui arrive chez un patient sur, je dirais,
Un moins de 1%.
un peu moins de 1% des patients, des interventions compliquées, on va dire, on a anticipé cette possibilité et on a tout le matériel en salle qui est prêt pour qu'on puisse le sortir et le déployer. Donc, notamment, on a par exemple des petits ballons qu'on gonfle à l'intérieur des artères pour venir boucher le trou. Ou alors, on peut mettre de la glu aussi, exactement comme de la super glu. Ce travail, ce ne sera pas que faire le geste, c'est aussi gérer tout ce qui peut se passer autour du geste. Finalement, le geste en lui-même, c'est un peu la première étape de la formation, savoir faire les gestes quand tout se passe bien. Et disons que avec l'expérience, on apprend à gérer les complications, à les anticiper, à savoir comment réagir dans des situations d'urgence avec toute l'équipe. Et c'est qu'au terme de toutes ces étapes-là qu'on est autonomisé, qu'on peut faire les gestes tout seul. On ne peut pas commencer un geste si on est capable de ne faire que le geste s'il se passe bien. Alors, il faut qu'on puisse aussi gérer toutes les complications possibles pendant le geste.
Et c'est aussi vrai au niveau des manipulateurs. Dans notre cursus, effectivement, à la base, on est beaucoup plus sur des gens qui faisons des images. Et là, on se retrouve vraiment à ne plus être la première ligne auprès de notre patient, parce que là, on va être en soutien. Donc, on va faire la préparation avec le patient, bien sûr, mais on va être en soutien, de notre opérateur. En fait, nous, chez nous, on travaille en binôme de manipulateurs. Alors, pour l'installation, on est à deux. Pour la désinstallation, on est à deux. Par contre, au moment où on va être en train de faire l'examen, il y en a un qui est en salle, donc tablier de plombée, c'est vraiment. Bon, c'est des rayons X, hein, donc on essaie quand même de limiter le nombre de personnes qui sont exposées. On se protège bien sûr, et donc il y en a un qui est en salle avec les opérateurs et qui suit la procédure directe et qui en fait sait exactement. Pareil avec l'expérience, on sait ce que va tenter notre opérateur, on sait de quel va être ses besoins. Et donc celui-là, il va être en charge de préparer le matériel et effectivement, en cas de complication, de tout de suite répondre à la demande. C'est-à-dire que on parlait du petit ballon qui est là, on va pas aller chercher dans l'arsenal notre petit ballon qui est à 20 mètres. Parce que 20 mètres, c'est pas long, c'est 5 secondes. Mais ces 5 secondes, on ne peut pas se permettre. Donc on a le manip qui est vraiment comme un infirmier de bloc opératoire dédié à cette activité. Et donc son binôme, lui, il va être dans un rôle beaucoup plus d'imageur. C'est-à-dire que lui, il va commander à distance la salle. Et donc les mouvements des arceaux. Également, il va avoir un œil peut-être plus sur le scope avec les anesthésistes. Il va parler, il va transmettre les informations nécessaires aux anesthésistes qui ne sont pas en salle pour éviter justement le rayonnement. Donc leur dire, ah bah là, regardez, on va bientôt déposer un coil. Peut-être qu'il va falloir faire une préparation médicamenteuse pour le patient. Donc, et lui, il va être en charge effectivement de avoir un petit peu plus de recul, d'être plus aux commandes de la machine. Donc voilà, on est aussi nous sur une double activité pendant le geste.
Finalement, on a parlé des AVC, tu as mentionné les anévrismes, mais le gros de notre activité, donc on a parlé des AVC, on va déboucher des artères qui sont bouchées, ou à l'inverse, il y a certaines artères qui sont rompues et qui saignent à l'intérieur du cerveau, et on va les boucher. Ça, c'est le gros de notre activité d'urgence. Et ça, c'est à peu près 50% du temps, c'est de l'urgence. Et dans cette urgence, la plus grosse partie, c'est de l'urgence non différable. On dit, c'est tout de suite maintenant, il faut faire le geste. Et le reste du temps, en fait, on a des patients, et ça, c'est quelque chose c'est l'activité, nous, qu'on appelle l'activité à froid, puisque c'est pas tout de suite maintenant. On a le temps d'anticiper, de préparer, de discuter en consultation avec les patients. C'est tout ce qui est les malformations des vaisseaux. Les malformations des vaisseaux, donc du cerveau et de la moelle épinière. Donc, de très loin, le plus fréquent, c'est les anévrismes. Donc, c'est des petites bulles qui se forment sur la paroi des artères. Et c'est les anévrismes. Peut-être un message important, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la population. Beaucoup de gens ont des anévrismes. En revanche, la chose qui est très très rare, C'est la rupture d'anévrisme. Donc, si on a un anévrisme, ça ne veut pas dire qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que, voilà, nous, notre rôle, c'est finalement surtout de rassurer les gens, leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un anévrisme. C'est un peu comme un grain de beauté et un mélanome. Tous les grains de beauté ne sont pas des lésions dangereuses, heureusement. Et pareil pour les anévrismes. Tous les anévrismes ne sont pas dangereux. Et donc, nous, on fait des images au bloc opératoire pour justement voir est-ce qu'on peut le traiter, est-ce que cet anévrisme présente des caractéristiques qui sont plus ou moins dangereuses. Et ensuite, on décide ou non de traiter. Mais ça, c'est vraiment une décision, on dit pluridisciplinaire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans la décision. On ne traite pas tout le monde. Voilà. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres types de malformations, des vaisseaux qui ne se connectent pas correctement. Des vaisseaux qui ne se développent pas chez l'enfant correctement et qui sont à risque de se rompre. Et nous, en fait, finalement, on dit souvent, c'est la plomberie du cerveau. Voilà. Donc on vient réparer ces tuyaux qui sont mal mis, qui fuient ou qui sont bouchés.
Ouais, c'est un jeu de pression. Après, on peut peut-être aussi se poser la question du parcours du patient. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui arrive et qui a mal à la tête. Alors, voir son médecin traitant, et puis, médecin traitant dit, bon, bah, on va. Ouais, ça fait longtemps que vous vous plaignez de ça, on va faire un scanner. Alors, attention, tous ceux qui ont mal à la tête n'ont pas des anévrismes. Mais du coup, le patient arrive en ayant mal à la tête, on va lui faire un scanner ou autre chose. Il a un petit problème de vue ou. Et donc on lui fait un scan, ou une IRM, on va bien regarder grâce à un produit de contraste les artères. Et effectivement, on voit que au lieu d'être un signal bien, enfin d'avoir un trait bien droit, eh bien il va y avoir une petite différence. C'est un petit peu bombé. Ça veut dire qu'en fait c'est comme un ballon, comme un ballon de baudruche en fait. Il y a toujours la même quantité de matière, mais plus il va être grand, plus il va être fin. Et donc, du coup, bah, l'idée de dire, ah ok, il y a quelque chose, on va lui faire une artériographie cérébrale. Donc là, les gens viennent chez nous, c'est un examen qui dure environ une demi-heure, c'est pas super agréable, mais globalement, ça se passe très bien. On va juste faire quelques images, et donc à la suite de ça, le médecin va lui estimer par rapport à un certain nombre de critères, est-ce qu'on va juste garder une surveillance parce qu'en fait c'était bénin, ou peut-être que les images sur le scan ou l'IRM étaient fausses, étaient construites, ça arrive. Et donc après. Effectivement, dans certains cas, les gens vont être recontrôlés à une distance, et puis on se rend compte que ça bouge pas. Alors bah du coup, bah là, Grégoire, c'est plutôt ta spécialité, mais ça bouge pas trop, donc bah on va laisser comme ça. On va continuer à vous garder un petit peu sous surveillance. Puis si un jour, bah il y a quelque chose qui se modifie, à ce moment-là, c'est quelque chose qui se passe, et les gens
On
reviennent.
rediscutera de savoir si oui ou non on traite à ce moment-là.
Et alors là, vous avez parlé d'un examen qui dure à peu près 30 minutes, mais sur les interventions dont vous parliez tout à l'heure, sur les urgences non différables, c'est des opérations qui, enfin, des interventions qui durent combien de temps à peu près?
C'est assez variable en fonction, bien sûr, du type d'intervention, mais la plupart de nos interventions à nous, entre le moment où le patient rentre dans la salle et le moment où il en sort, donc il y a le temps de préparation, le geste et le réveil du patient, on est aux alentours entre 2 et 3 heures. C'est-à-dire que c'est des interventions qu'on peut qualifier, c'est pas des longues interventions, hein, c'est pas une transplantation des deux mains qui peut durer 24 heures, mais c'est intense. Et il y a certaines de ces interventions, bien entendu, on a tous les extrêmes, hein, il y a certains types de malformations on sait tout de suite que ça va être très long. Il y en a qui sont très très longues. Pas parce qu'on est plus minutieux, parce qu'on est toujours assez minutieux dans la précision, mais il y en a certaines où, par exemple, on peut avoir une trentaine de tuyaux mal formés qui vont au même endroit. Va falloir qu'on s'occupe de tous ces tuyaux-là, qu'on déploie du matériel, ou parfois on peut être amené à mettre 5, 6 cathéters, 5 petits tuyaux en même temps à différents endroits avant de commencer. Donc le seul temps le temps que ça nous prend d'amener les cathéters au bon endroit, de vérifier, d'en amener un deuxième, un troisième. Voilà, ça peut prendre plus de temps, mais je dirais que la moyenne, c'est à peu près 2-3 heures.
On est sur une ambiance, donc on fait des images, donc la lumière en salle est très très basse pour bien regarder. En fait, faut bien comprendre que le chirurgien, quand il opère, souvent il regarde en direct ce qu'il est en train de faire. Il voit ses mains, il voit ses objets. Nous, en fait, nos médecins, ils poussent des petits tuyaux qui tournent les uns par rapport aux autres, qui sont les uns dans les autres. Et en fait, ils contrôlent tout ce qu'il est en train de faire en train de regarder un écran. Et il y a une espèce de dissociation qui s'opère entre l'esprit du médecin et ses mains.
Alors, on aime bien dire qu'on ne traite pas des images, mais il n'empêche que ce que notre travail se matérialise sous la forme d'images, on a un peu un avant-après. Et en plus, il y a de quoi faire des développements technologiques incroyables. Il nous arrive, on a cette possibilité, on ne l'utilise pas toujours, mais on l'utilise régulièrement, de naviguer à l'intérieur des vaisseaux, mais qui sont projetés en 3D. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur d'une espèce de cartographie 3D des vaisseaux.
Il faut savoir qu'effectivement, la France historiquement a été pionnière dans tous ces développements. Ce qui fait que du coup, les industriels qui nous proposent du matériel, ils ont des partenariats intellectuels très marqués avec quasiment tous les centres de neuroradiologie interventionnelle. Ce qui fait que globalement, on est toujours en train de solliciter nos équipes pour développer du matériel, pour donner des retours. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui est en développement, alors dans la prise en charge de nos patients et aussi au niveau de la techno, de la technique de nos matériels et aussi au niveau de la recherche. On est dans un domaine où la recherche est à portée de main pour tout le monde.
Le CICIT 1415, c'est quoi? Le centre d'investigation clinique? En quoi ça consiste?
Alors c'est une équipe, il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça en France, je crois qu'ils sont moins d'une dizaine, je dirais qu'ils sont 8. Et alors le CIC, alors il y en a dans tous les CHU, des CIC, ce sont des centres d'investigation clinique, ce sont des gens qui mènent des études, quand vous entendez les fameuses études médicales qui sont en cours, eh bien ces gens-là sont soit les promoteurs, sont eux qui ont dit ah, bah, on va faire une étude avec tel service de l'hôpital pour tel médicament ou telle prise en charge. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très connu. Et alors, la partie IT, donc, qui est un petit peu plus spécifique, donc là, ils sont que 8, je crois, en France, ils ont leur travail, c'est d'accompagner des projets d'innovation. Vous arrivez avec une idée, vous allez les voir et vous leur dites, bah, écoutez, j'ai une idée, mais je sais pas trop si c'est une bonne idée. Et alors, souvent, ils vous disent pas oui ou non. Ils disent, bah, déjà, tu vas nous expliquer. Et donc voilà, c'est une équipe. Alors nous, au CHU, c'est deux ingénieurs, c'est une chef de projet et un directeur qui est le professeur Pata. Et donc du coup, cette petite équipe, elle est vraiment en charge de faire en sorte de dénicher des projets locaux à l'intérieur du CHU. Pour essayer de faire avancer nos pratiques. Donc il y a vraiment deux axes, le CIC et la partie innovation technologique.
Au CICIT à Tours, il y a une forte orientation sur bon, les ultrasons, l'échographie, toutes les applications pour l'imagerie et pour le traitement qui utilisent les ultrasons. Alors, les ultrasons, on peut faire des images avec, c'est l'échographie quand on voit les échographies des bébés chez les femmes enceintes, c'est des ultrasons en fait qui sont envoyés à travers la peau et qui reviennent jusqu'à la sonde qui les détecte et ça détecte les interfaces. Et à force de créer des interfaces entre la peau de la maman, la peau de l'utérus, l'intérieur de l'utérus, la peau du bébé, ça crée des images en fait. Ça crée toutes ces interfaces, ça crée une image chez les ultrasons. Mais les ultrasons, on peut aussi les focaliser. Alors on voit un peu ces films de science-fiction où il y a des canons sonores et on focalise du son à un endroit. Et ça voilà, c'est un peu la même chose, mais c'est réel, c'est-à-dire que c'est comme c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière, on peut focaliser les ultrasons à un endroit et ça peut traiter, ça peut brûler, ça peut détruire quelque chose. Donc ça, c'est une des fortes orientations du CICIT. Et l'autre orientation forte, c'est les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, c'est comme ça, on peut se dire que c'est pas très glamour la problématique des dispositifs médicaux, mais en fait, finalement, plus on avance, que ça c'est vrai dans tous les métiers, hein, plus on s'approche on apprend son métier, on développe des choses, plus on aimerait voir développer telle ou telle chose. On dit, ah, dans cette situation, je me retrouve toujours bloqué parce que, je sais pas, mon cathéter n'est pas formé de la bonne manière ou il n'a pas la bonne forme. Au bout, il est trop souple, par exemple. J'arrive pas à aller à soutenir mon tuyau parce que le cathéter est trop souple. Alors, je vous donne un exemple très simple, hein, mais c'est j'aimerais bien avoir un tuyau un petit peu plus rigide. Et c'est ça, il va falloir le tester, mettre en place, voir quel type de matériel on peut mettre à l'intérieur de ce tuyau pour qu'il évolue, pour être un petit peu plus rigide, mais qu'il ne soit pas non plus traumatique. Et ces problématiques-là se multiplient à l'infini, finalement, avec notamment, ce n'est pas des nouvelles maladies, hein, mais on développe la capacité d'aller traiter des choses de plus en plus petites, des choses de plus en plus compliquées. Et au fur et à mesure de ces développements technologiques, il faut que les dispositifs médicaux suivent, finalement.
qui suivent. Et puis il y a aussi tout un côté réglementaire. On est quand même en train de parler de matériel qu'on va mettre dans le cerveau des gens. C'est bien d'avoir une bonne idée, mais après, il faut être sûr que, y ait toute une chaîne de validation qui est lourde. Alors, elle peut paraître lourde, mais elle est aussi là pour être sûr que qu'on protège les gens qu'on va soigner.
On parle de la recherche, et là on en a beaucoup parlé avec le ou la Covid récemment, et on a beaucoup entendu dire, bah, c'est bon, la situation est urgente et grave, donc on va griller les étapes. Mais il faut se rappeler que toutes finalement, ce n'est pas des barrières intellectuelles, hein, toutes ces étapes permettent de ne pas faire d'erreur sur la trajectoire de la validation d'un produit qui ensuite est utilisé chez vous et moi, c'est-à-dire que... Si un jour, je ne sais pas quoi, on a un problème cardiaque, le chirurgien cardiaque peut utiliser un matériel parce que celui-là a été validé, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. On a entendu un peu tous les ce qu'on appelle les scandales. Alors, il y a des scandales pharmaceutiques, mais il y a aussi des scandales de dispositifs médicaux et pour le problème des prothèses mammaires. Alors, il y a ces choses-là, soit c'est des problèmes de la taille des mailles du filet, c'est-à-dire que les mailles du filet sont trop larges dans certains aspects de la réglementation, et dans ces cas-là, c'est finalement la problématique peut se rectifier, soit c'est clairement des scandales parce qu'il y a eu volonté de cacher. Le rôle finalement des chercheurs, Laurent, et enfin les chercheurs, on n'est pas nécessairement médecin quand on est chercheur. D'ailleurs, l'immense majorité des chercheurs ne sont pas médecins. On a des trajectoires de paramédicales, en biologie, en ingénierie. Finalement, on travaille tous ensemble. On part d'une idée. La trajectoire de la recherche, c'est-à-dire qu'au départ, d'une certaine manière, c'est un peu comme un voyage sur la Lune. On voit la Lune, on dit, bah, c'est pas compliqué, on envoie une fusée. Et une fois qu'on y arrive, bah, voilà, c'est bon. Et en fait, plus on se rapproche, plus on voit que le moteur de la fusée n'est pas assez puissant, qu'en fait, il y a un cratère, il y a une fosse de 500 mètres de profondeur à l'endroit où on pensait qu'on allait atterrir, etc. Donc, plus on se rapproche de la réalité, plus ça devient compliqué. C'est vrai aussi pour la recherche, et c'est ça qui fait que c'est passionnant, hein. C'est-à-dire qu'on part d'une idée et il faut l'amener jusqu'à l'utilisation, on dit en pratique clinique, mais c'est pas tant ça, il faut aussi l'amener en utilisation en pratique clinique et que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on parle... Un bon exemple, alors c'est vraiment passionnant, c'est un champ qui est en développement, pour certains aspects, ça sert à quelque chose, mais nous, en radiologie, en imagerie, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, il y a une foule, il y a des centaines de startups d'intelligence artificielle en imagerie qui se montent, mais il n'y a pas une seule étude, ou alors si quelqu'un en trouve une,
Il nous l'envoie.
qu'il nous l'envoie, qui démontre pour l'instant le bénéfice sur la prise en charge des malades. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette problématique. C'est certainement que d'une certaine manière, et si on intègre ça, c'est on parle d'intelligence artificielle, le mot est bien choisi, disons d'un point de vue commercial, mais finalement ce sont juste des solutions de donc c'est des super ordinateurs qui peuvent faciliter certains processus, mais encore une fois cette intelligence artificielle ne remplacera pas c'est même pas ne remplacera pas les radiologues, mais on est très loin d'un monde où l'intelligence artificielle fait ce type de métier. Mais c'est vrai aussi pour la comptabilité, c'est vrai aussi bah, pour la recherche elle-même. Voilà. Mais donc pour ceux qui sont pas trop rompus à la recherche, globalement, j'ai une idée. Voilà, je vais faire ce nouveau dispositif médical parce que je suis venu voir la salle de neuroradiologie interventionnelle et je trouve vraiment qu'il leur manque cette chose-là. Moi, je trouve que voilà, j'en parle avec l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez ce besoin? Oui, on a ce besoin. Super. Alors, on commence à en discuter avec des ingénieurs, on parle au CICIT, à l'équipe du CICIT, on voit de quelle manière on peut commencer à penser ce matériel-là. Avant de commencer à développer le matériel, on fait de la modélisation, c'est la première chose, et on essaye de voir de quelle manière ça pourrait aider. Bon, c'est bon, on est tous d'accord, ça a l'air d'être super ce dispositif. Comment on va faire? On ne va pas commencer à l'implanter chez des patients. On va commencer par, bien sûr, il y a la phase ingénieriale, on va voir de quelle manière on peut créer ce dispositif, avec quel type de technique, laser, de quelle manière, par exemple, pour nous, on aime bien les stents, ces espèces de petits tuyaux en métal. Quel métal on va utiliser, de quelle manière on va le découper, quelle sera sa force radiaire, de quelle manière il va s'étendre, comment on fait pour le déployer. Ensuite, ces dispositifs-là, on les étudie chez l'animal. On dit jamais chez le patient la première fois pour voir de quelle manière ça interagit dans un organisme vivant. Et on voit de quelle manière le dispositif se comporte. Une fois qu'on a précisé ses caractéristiques et qu'on dit ce dispositif a l'air sécurisé, alors on rentre dans ce qu'on appelle la recherche clinique. Et la recherche clinique, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais c'est celle dont on a beaucoup entendu parler récemment pour la COVID. C'est ça la recherche clinique, c'est on prend beaucoup de patients, on leur donne ce traitement et on voit si ça marche. Et la recherche clinique elle-même, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il y a une méthodologie, c'est la méthodologie de la preuve. Le but, c'est pas d'être obtus et de dire, regardez, nous, on sait comment prouver quelque chose. Le problème, c'est que, et ça, c'est vrai pour tous les champs de la science, on ne peut pas prouver l'absence de quelque chose. On ne peut pas dire, cet effet, l'hydroxychloroquine, n'a aucun effet indésirable sur cette population de, par exemple, 6 milliards d'êtres humains à qui on va donner pour arrêter le Covid. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare. On compare deux choses. Et cette problématique de comparer, on en a beaucoup parlé, donc je pense que c'est plus familier aux oreilles des gens. On dit toujours qu'il faut des plus grandes études pour valider ce traitement. Mais en fait, ces plus grandes études, souvent, c'est des études qui comparent. On pense que ce traitement marche mieux. Alors, on donne au patient le nouveau traitement ou on implante le nouveau dispositif. Ou alors, on lui donne l'ancien traitement, celui qui est le meilleur traitement qu'on a pour l'instant, ou alors ce qu'on appelle un placebo. Et donc on compare ces deux choses et tout ce processus est, comme on imagine, compliqué. C'est-à-dire que un patient, par exemple, si on traite un nouveau médicament sur des patients qui ont un AVC, le patient arrive avec un AVC, on l'a dit, c'est extrêmement urgent. Il faut qu'on discute avec la famille. Alors vous voyez, on a ce nouveau traitement. Pour l'instant, il n'est pas validé. En tout cas, on pense c'est sûr qu'il n'y a pas de risque de complication. Mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il marche. On vous propose de faire 50-50. Si vous dites oui pour rentrer dans cette étude, alors votre papa ou votre sœur ou votre enfant pourrait rentrer dans le bras avec le nouveau traitement, mais ce n'est pas sûr. Et même nous, on ne le saura pas, puisqu'en fait, ce sont des fioles blanches avec rien marqué dessus, puisqu'on veut ne pas être influencé. Donc, il y a toute cette méthodologie de la validation qui finalement prend du temps, et c'est une aventure vraiment passionnante, hein. Mais qui est nécessaire pour pouvoir à la fin dire on va valider ce traitement et on recommande ce traitement. Et je veux juste rapidement, la partie, les essais de phase 1, donc c'est le tout début de la recherche clinique, quand on commence des essais de phase 1, qu'est-ce qu'on fait? On donne le traitement à une personne et on attend que son organisme ait digéré et métabolisé l'ensemble du traitement. Pourquoi à une personne et pas à 10 d'un coup ou 1000? C'est parce que la première fois qu'il y a eu un essai de qui n'était pas à l'époque pas un essai de phase 1. Hein. Donc, il y avait un nouveau traitement qui avait l'air vraiment super, c'était à Philadelphie. Et ils ont demandé à des volontaires sains, c'est comme ça qu'on commence. Et il y avait 10 volontaires sains, et ils ont injecté le traitement au premier malade, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, etc., jusqu'au dixième. Et quand ils ont fini l'injection du dixième, le premier a commencé à aller très mal. Puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, etc. Ils sont tous morts. Donc, c'est. Disons que c'est en se basant sur ce type de choses que c'est pour ça, au moment du Covid, on disait non, mais c'est pas grave, pourquoi est-ce qu'on va pas plus vite? Il faut valider les étapes. C'est la même chose. Quand on donne un traitement pour une indication, pour une nouvelle maladie, par exemple, on veut être sûr qu'on va pas faire plus de dégâts. Et c'est ça la recherche clinique, finalement. C'est valider des interventions, valider des dispositifs. Pour ça, on est très aidé par des structures comme le CICIT qui sont très transversales, qui permettent à la fois de nous fournir un support pour mettre en place des essais, donc de la recherche clinique à proprement parler, mais aussi du transfert de technologie.
Alors pour la partie CIC, ils sont en réseau. C'est-à-dire que par exemple, Tours décide de monter une étude, ils ont une question, et ils disent, oh bah ok, on y va. Le CIC dit, bah ok, nous, on va vous aider à devenir promoteur. Donc ils vont vous dire, voilà les dossiers, voilà la méthode qu'on va utiliser, voilà ce qu'on va faire. Et après, ils vont contacter les autres CIC des autres hôpitaux en disant, bon ben voilà, est-ce que vous voulez participer à notre étude? Et après, les autres CIC, du coup, nous renvoient leurs données. Donc comme ça fait vraiment un facteur d'impact qui est beaucoup plus important en termes de patientèle. Alors ça, c'est pour la partie CIC, et c'est vraiment ce que fait Grégoire avec vraiment de la recherche, on va dire, un petit peu conventionnelle. Et pour la partie IT, ils ont une autre approche. plutôt non conventionnelle, qui consiste à dire venez nous voir avec une idée. Et nous, après, on va juger de l'idée. Et c'est vraiment quelque chose que je veux dire à tous ceux qui entendront. Alors écoutez bien, allez les voir. Dans toutes les facs, partout, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des structures de valorisation. Alors il y a Christelle Rivas sur la fac de. Sur l'université. Dans toutes les institutions, il y a toujours des gens dans la valorisation. Et ces gens-là, ils sont géniaux parce que quand vous allez les voir avec une idée, même si la première approche, elle n'est pas emballante, ils vous demandent toujours « Ah ouais, super, super, bah vas-y, parle-nous-en. » Et du coup, vous commencez avec une petite idée. Et eux, après, ils disent « Ah oh bah, c'est pas mal, mais on va aller voir un telle personne. » Et ils vous mettent en contact avec des experts dans à peu près toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, nous, moi, je suis un projet et... Et donc le CIC IT m'a mis en contact avec Cévalo, une structure de valorisation de la région. Et donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé à des réunions où il y avait autour de moi que des pontes, que des gens qui étaient des spécialistes de leur domaine. Et vraiment, ces structures de valorisation, elles ont un discours qui je trouve extrêmement intéressant. C'est, vous avez l'idée parce que vous connaissez vos problématiques. Et en ça, vous êtes expert du problème. Et maintenant, notre travail à nous, c'est de vous mettre en contact avec des experts dans chaque petit domaine qui peuvent justement vous aider à avancer. Et c'est comme ça qu'ils construisent en fait autour de vous une équipe, hein, comment dire, des consultants. Alors, vous avez des équipes plus ou moins proches, bien sûr, mais il y a aussi vraiment ce côté où toujours, toujours, ils vont vous challenger. Alors bon, c'est des réunions qui sont extrêmement fatigantes, mais surtout passionnantes, parce que pendant vous y arrivez, vous avez bossé, tout préparé, et pendant 2 heures, bah, ils vont vous challenger, quoi. Moi, quand je suis rentré à l'école de radio, j'étais juste content de voir mes patients et de faire mes clichés, et j'adore toujours faire ça. Voilà, j'ai identifié, comme vous disiez tout à l'heure, Grégoire, un souci, quelque chose qu'on pouvait faire mieux, et donc j'ai été voir après les structures de le CIT, et faites-le, allez voir si vous avez une idée. Allez, rapprochez-vous de vos mentors, et du coup, ces mentors, ils vont vous orienter vers des structures de valorisation. Alors, nous, c'est le CICIT, qui est une unité de l'hôpital, mais qui a un label INSERM.
Alors, vous ménagez le suspense, Laurent Auriol-Aurore. C'est quoi ce fameux projet avec lequel vous êtes allé voir le CICIT?
Alors, c'est encore relativement confidentiel, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est de se dire que... On n'a pas d'outils de logiciels métiers, logiciels vraiment dédiés à notre activité, et qu'on a des attentes très spécifiques, et que du coup, ben, on est quand même, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses depuis tout à l'heure, et nous, en fait, ben, on a besoin de développer quelque chose qui nous permettrait de vraiment d'être une interface pour l'ensemble des équipes. Et je pense vraiment que c'est une chance pour tous ceux qui ont des formations, alors j'allais dire courtes, des licences. Vous pouvez travailler et avec une licence, vous pouvez avoir des idées. Et c'est pas la peine d'attendre d'avoir le doctorat pour faire de la recherche. En
fait. Mais ça, il faut se rapprocher des labos de recherche, des structures de recherche. Et finalement, on travaille tous ensemble, hein, sur ces problématiques. Et c'est chacun apporte un petit peu ses compétences. Hein, toi, Laurent, tu as un point de vue très particulier qui est lié à ta pratique au quotidien. Tu vois ce qu'on demande. Parfois, dans les situations stressantes, on peut toujours demander la même chose au même moment. Et finalement, avec cette expérience-là, toi, tu as mûri ton projet de logiciel, d'application, si on peut dire. Qui permettra de faciliter un peu la vie de tout le monde au bloc opératoire, mais aussi sans révéler, parce que c'est confidentiel, hein, mais aussi ça permettra des économies pour les services, ça permettra d'intégrer l'expérience du manipulateur à l'intérieur d'une application qui facilitera la vie de tout le monde à tous les niveaux, c'est-à-dire des choses complètement invisibles qui sont le matériel, jusqu'à vraiment en pratique, tout de suite j'ai besoin de tel matériel.
Moi là, à l'heure actuelle, effectivement, j'ai obtenu des financements de recherche par Cévalo, j'ai obtenu par le CHU une mise à disposition de mon temps, c'est-à-dire qu'en fait, Je continue à passer 70% de mon temps au bloc ou dans mon service à vraiment faire mon travail de manip radio. Et à côté de ça, on m'a mis 30%, donc c'est entre une et deux journées par semaine, pour pouvoir mener le projet de recherche. J'avais pas cette ambition quand j'ai fait mes études, et à l'heure actuelle, je me rends compte que cette ambition, je l'ai saisie parce que les formats vous proposent des choses, quoi.
Et alors, cette idée de recherche ascendante, de valoriser aussi les personnes qui ont des compétences de terrain, qu'est-ce que ça dit ou qu'est-ce que ça peut modifier ou changer dans ce qui pourrait encore être parfois, dans certains services, un rapport hiérarchique un peu lourd dans des équipes soignantes? Est-ce que ça peut avoir une façon de penser un fonctionnement d'équipe de façon différente?
Je sais pas si je suis objectif parce que on en parlait tout à l'heure avec Grégoire en arrivant. Nous on a la chance en NRI à Tours d'être sur une équipe qui est très soudée où tout le monde peut se parler. Donc c'est vrai que du coup naturellement chez nous toute idée est bonne à dire. On a cette habitude. Donc c'est vrai que du coup, pour moi, après aller voir le CIT, et donc c'était Frédéric Ossan qui m'a chapeauté au début, et surtout Paul-Armand Dujardin, que je salue ici, c'est des gens, voilà, j'ai pas hésité à y aller, parce que ils sont demandeurs de recevoir des idées. Pour le reste des services, je sais pas si je pense que dans certains services, il y a toujours ce format un petit peu patriarcal qui peut exister, un petit peu rigoureux, rigoriste presque dans les rapports les uns aux autres. Donc voilà, je peux pas trop m'avancer d'un point de vue global ou général pour tout le monde. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau du CHU, il y a des choses qui sont mises en place pour justement mener ces projets de recherche. Et vous n'êtes pas obligé de passer directement par votre encadrement de proximité, votre cadre ou votre chef de service. Vous pouvez aller voir directement ces services un petit peu à l'écart avec des projets, et eux, du coup, après, ils vont vous accompagner. Alors, on va pas se mentir, ces projets à l'origine, on va pas tout de suite vous dire, ah oui, tu fais ça sur ton temps de travail. On est sur des démarches volontaires, on est sur du dépassement de fonction. À partir du moment où c'est du dépassement de fonction, faut bien comprendre que c'est du temps perso qu'on investit sur ce type de projet. Après, au bout d'un moment, ça paye. Quand vous avez assez avancé, à ce moment-là, vous avez montré aux différentes structures votre implication et votre volonté d'y arriver aussi, le fait que vous ayez les épaules assez solides aussi, à ce moment-là, on vous met à disposition. Donc c'est vrai que s'il y a un écueil à éviter, ça va être d'arriver à passer au-dessus de cette mise initiale de votre temps que vous allez mettre dans la balance au départ. Bon, globalement, on fait quand même ce genre de projet parce que ça nous motive et qu'il y a vraiment ce côté très très motivant. Mais pour en revenir à la question donc sur les services, je pense qu'effectivement il y a un changement. Je pense qu'il y a vraiment cette notion avant que l'hôpital était quelque chose de très lourd, de très fermé, où bah, vous rentriez sur un statut, puis bah, vous repartiez 42 ans après avec le même statut, que les possibilités d'évolution n'étaient pas dingues. Ça change, on n'est quand
Ça
même
change.
pas.
Même vous disiez là, vous posiez la question de la structure hiérarchique. C'est donc là, on parle de manière un peu transversale parmi les différents éléments de l'équipe. Mais cette problématique-là, je pense qu'il y a une question aussi un peu générationnelle. Hein. Je pense qu'il y a une transition qui est amorcée, ou en tout cas qui est partielle. Il n'empêche, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie clinique. Ça, on ne pourra jamais retirer le fait que quelqu'un qui a de l'expérience, finalement, c'est une transposition de la question du respect des aînés, qui est un peu la version 1900. Mais finalement, c'est à l'hôpital, et c'est normal, puisque c'est la vie des gens, c'est le respect fort de l'expérience. C'est-à-dire que il y a une hiérarchie implicite qui est liée à l'âge et à l'expérience. Et donc ça, c'est pour l'activité clinique. Pour l'activité de recherche, finalement, c'est ce dont on parle. C'est vrai également, puisque bien entendu, nos aînés ont une expérience plus forte et connaissent mieux, et finalement peuvent nous orienter, nous aider à nous développer. Et finalement, on dit, c'est win-win-win-win, malgré tout. Cette question un peu de casser les codes et de faire de faire un peu différemment de comme c'était avant. Dans la recherche, cette question-là se pose aussi au sein, je pense même un peu des corps d'activité. Par exemple, en médecine, c'est vrai que c'est des situations difficiles. Par exemple, quand on est plus jeune, c'est difficile d'émerger, puisque souvent on subit cette chaîne hiérarchique compliquée. On peut être à même de fournir tout ce travail et que finalement on ne soit pas reconnu pour le travail fourni, puisqu'on n'est qu'un élément de cette chaîne hiérarchique. Et ça, c'est en train de changer, je pense, c'est une question générationnelle. Enfin, c'est en train de. On pourrait même dire que ça a changé finalement. L'éclosion est en cours, on va dire. En tout cas, c'est possible. Moi, je me vois comme étant junior. Enfin, disons qu'on a les mains libres, on est reconnu pour le travail. Et d'une certaine manière, ça valorise toute l'équipe. C'est-à-dire que ce travail-là, on ne le fait jamais tout seul. On revient un petit peu au début. Mais sur la question de la recherche, finalement, le point clé de de toutes ces questions de recherche, alors c'est très très bateau, mais c'est vraiment réel, c'est la collaboration. Finalement, quand on a une bonne idée, ou quand on a un bon projet, ou quand on a une bonne question de recherche, la première étape, c'est pas comment je vais faire pour le développer jusqu'au bout tout seul, c'est pour arriver au bout, il faut immédiatement se dire avec qui je pourrais collaborer pour mener cette étape à terme. Et idéalement, il faudrait qu'il y ait le plus de personnes dès le début. Et d'une certaine manière, cette manière de voir, et de toute façon, la recherche biomédicale maintenant, c'est intrinsèquement collaboratif. On ne fait plus. Quand je dis que ça c'est en train de changer, c'est fini l'époque où il y avait un opérateur superstar qui donnait la bonne parole au monde entier. Vous savez, c'est le fameux Key Opinion Leader, les KOL. En tout cas, pour nous, la génération, disons, des jeunes médecins, on se fie beaucoup moins à la question des key opinion leaders. On aime bien avoir lire en profondeur la littérature, se renseigner et expérimenter, bien sûr, et travailler en équipe. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu le trait de la génération Y. Travailler tous ensemble pour arriver à un but commun qui est plus élevé, plutôt que de travailler tout seul pour arriver à pour arriver, se hisser soi-même, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose.
Et je pense aussi que, mais ça c'est quelque chose qui est un peu notre génération, on a près du même âge, on est autour des 35 ans, on fait partie de cette génération qui est arrivée où effectivement le principe des rails, non, non, on m'a appris des choses, mais après c'est mon historique, c'est mon vécu qui fait que j'ai décidé de me spécialiser dans ça ou dans ça, et je le vois par exemple avec mes collègues manipulateurs dans le bloc. On est à peu près un certain nombre de cette même génération et on est en tout 12 manips. Sur les 12, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait le même travail, on a le même statut, et pour l'hôpital, on est tous interchangeables, mais dans notre fonctionnement, on sait que certains vont être en charge de la gestion des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les commander, les faire venir, les recommander après, gérer les problèmes de traçabilité, d'être interface avec la pharmacie, avec les industriels. D'autres vont avoir des formations autour de l'hypnose. D'autres personnes vont être, elles, en charge de la gestion, enfin, vont être référents sur la salle. On est quand même sur une salle de haute technologie. Donc, ça a besoin de compétences spécifiques. Moi, effectivement, j'ai plutôt basculé vers le côté dispositif médical, dans l'utilisation, dans ce qu'il en est dans la tech. Mais on a tous le même statut, on a tous le même, on est tous la même chose pour. Mais on a tous fait le choix de se spécialiser dans quelque chose. Et on nous a pas dit il faut se spécialiser. C'est que cette manière, comme on disait, de travailler de manière collaborative, fait que ben, on a trouvé notre place. Et comme ça, on est une équipe qui, je pense, tourne plutôt pas mal, sur laquelle les médecins peuvent s'appuyer, parce qu'ils savent que chaque personne est interchangeable en salle, mais à côté de ça, on va pouvoir vraiment répondre à toutes leurs questions très pointues, très spécifiques.
Eh bien, merci. On peut supposer aussi que ça va peut-être faire naître de nouveaux métiers. Je pense par exemple, je sais que dans les services de recherche, il y a des infirmiers de recherche. Et c'est pas un diplôme qui existe en soi. Eh bien, messieurs, je vous remercie, en tout cas pour le temps accordé à cette émission.
Merci à vous.
Merci.
On pourra mettre en lien de ce podcast le site du CICIT et évidemment les sites de l'INSERM. Merci encore.